Néhémie, chapitre 8, verset 1. Donc le mur est construit. C'est un certain temps après que le mur ait été construit. Et les gens sont réunis comme un seul homme. Il est dit alors que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Ce n'est pas une bonne traduction, mais c'est plutôt le livre des doctrines, de l'enseignement. Le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Chapitre 2, les hommes et les femmes. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. C'est vraiment un long culte. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur cette occasion. Seigneur, bénis et donne-nous de la compréhension. Nous te remercions beaucoup. Ils ont dit, comme un seul homme, ils ont pris le livre. Et le livre devint chair et habita au milieu de nous. Donc nous te remercions ce soir. Nous prions pour Pasteur Schaller, pour Pasteur Stevens. Nous prions pour chacun, les enseignants à l'école biblique, à l'école chrétienne, les membres de l'Église, et nous te remercions. Car c'est vraiment une Église extraordinaire. C'est une Église qui amplifie cette phrase d'amener le livre. Vous pouvez vous asseoir. La première fois que j'ai lu Néhémie chapitre 8, pour quelques raisons, je pensais cela. Que quelqu'un avait dit à Esdras d'amener le livre. Mais en fait, c'est tout le peuple qui s'était rassemblé comme un seul homme, qui s'était rassemblé à la porte des eaux. C'est le peuple entier comme un seul homme qui a demandé à Esdras d'amener le livre. Et cela est vraiment extraordinaire, d'amener le livre. Donc c'est extraordinaire ce qui se passe derrière les pupitres. Derrière les pupitres, les gens parfois amènent les problèmes. C'est parfois ce que tu entends quand tu entends lorsque tu rentres dans certaines églises. Mais tu n'as besoin de personne d'amener les problèmes. D'autres, derrière le pupitre, amènent la chair ou leur personnalité, la culture. Ou alors c'est que des miracles ou l'argent. Il y a des gens qui amènent derrière le pupitre le légalisme. Tellement de différentes choses. Nous sommes vraiment privilégiés que pour des décades et des décades, nous avons eu un pasteur et un leadership qui constamment écoute la voix de la congrégation. Et c'est actuellement votre voix. Ils étaient là-bas et ils ont dit à Esdras d'amener le livre. Nous voulons que tu amènes le livre. Dans vos pensées, pensez à cela. Il y avait 26 personnes. 26 personnes qui étaient à droite, 26 personnes qui étaient à gauche. On a prêché là-dessus auparavant, mais quand il a ouvert le livre, les gens se sont levés. C'est pour ça que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on demande aux gens de se lever. Il a ouvert le livre et les gens se sont levés. Ils ont commencé à adorer Dieu, à dire Amen, à l'adorer. Et ensuite, ils ont baissé leur corps, leur tête, leur visage jusqu'à terre. Et c'est incroyable quand le Saint-Esprit est en train de travailler dans nos vies au travers des messages comme on a entendu. Quand le Saint-Esprit travaille, juste l'Esprit se lève, quelque chose se passe dans notre corps, dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit travaille et travaille dans notre esprit, et l'âme répond au Saint-Esprit au travers de l'esprit humain, et l'âme se plie devant le Seigneur, s'abaisse devant Dieu. Quelqu'un a mentionné au sujet d'Ésaïe 66. Dieu a dit à quelqu'un, où est la maison que vous allez me construire alors que j'habite partout? Mais voilà les hommes qui m'étonnent, que je cherche. Donc Dieu veut construire des gens. On n'a pas besoin de lui construire quelque chose, c'est lui qui veut construire quelque chose. Et ces gens-là, en unité, ont dit à Esdras, amène le livre de la doctrine, de l'instruction que Moïse nous a donné. Amène ce livre. Et vous seriez étonné de savoir que ce n'est pas la première fois. Si tu lis 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 13, la dernière chose que Paul a demandé à Timothée, il a dit à Timothée, quand tu viens, je veux que tu m'amènes le livre, et spécialement le parchemin. Je suis en prison à la fin de ma vie. Je ne mange pas bien. Je ne suis pas très intéressé du fait de sortir. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Bien sûr que j'aimerais que les choses aillent bien. Mais la seule chose que je veux que tu amènes, amène le parchemin. Les livres, le livre. Il n'y a rien à la fin de ma vie qui me donnerait plus de confort dans mes épreuves que la parole de Dieu. Donc, amène le livre. Et c'est ce qui se passe quand on vient ici le dimanche matin, le dimanche soir. C'est incroyable de voir combien de gens viennent pour écouter la parole de Dieu. Et ce ministère grandit. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas nous. Nous grandissons dans la connaissance de Dieu et dans la grâce de Dieu. Parce que ce ministère se reproduit à cause de la parole de Dieu, du travail du Saint-Esprit. J'ai rencontré 3 personnes vendredi. Quelqu'un m'a dit, tu es le pasteur Afrique. Il a dit, parce que je te connais. Parce que je t'écoute depuis un moment déjà. J'ai rencontré une autre femme qui vient à l'église depuis 88, qui était amenée par pasteur Gary. Et on est dans l'église, dans la rue, dans la ville de Baltimore, et je rencontre comme ça 3 personnes, des gens dans lesquels on a investi, quelqu'un qui a amené le livre à ces personnes. Et Paul a dit à la fin de sa vie, voilà ce que j'ai, la seule chose dont j'ai besoin, la chose qui est la plus importante, plus que n'importe quoi, c'est la parole. Et combien il nous est facile pour l'ennemi qui essaye de venir dans notre vie et d'enlever cette vérité. Car il sait que c'est la seule chose qui me permettra d'aller de l'avant dans ma vie et d'avoir des progrès. Et ce matin, quand Pasteur Chaleur était en train de prêcher, je pense que je vais utiliser le message ce matin, pour prêcher plusieurs messages. Les 3 premiers messages du diable. Il est allé directement à la parole. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit? Donc il va directement à la parole. Donc Ève a un peu tordu la parole de Dieu, mais après le diable est venu avec son message tordu et en disant non, tu ne vas certainement pas mourir. Il était en train d'attaquer la fidélité de Dieu quant à sa parole, ses promesses. Et ensuite il lui dit, Dieu ne veut pas que tu en manges parce qu'il sait, parce que tu sauras. Que tu sauras toutes choses et tu seras comme nous. Donc il va attaquer même le caractère de Dieu. Donc dès le début, le diable attaque le caractère de Dieu. Et la solution, c'est quoi? Amène le livre. Et je pensais, lorsque Moïse descendait de la montagne, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui adoraient un veau. Et Moïse a pris les deux tables de la loi. Et il a brisé les tables de la loi. Mais gloire à Dieu, Moïse a pu remonter et Dieu lui a redonné. Il lui a redonné encore des tables. Est-ce que vous avez déjà lu ce que Moïse leur a demandé de lire, de boire, pardon. Un truc bizarre. Après qu'il ait brisé les tables de la loi, il a demandé aux gens qui avaient péché de boire de l'eau avec la cendre de certaines choses. Lorsqu'il est remonté sur la montagne, il est revenu avec quoi? Pas de l'argent. Il est revenu avec la parole de Dieu, les tables de la loi. Et dans cette période, il y a tellement de gens qui sont juste déportés à droite et à gauche. J'ai lu aujourd'hui une lettre de nouvelles de Pasteur Goody, qui est en Asie. Il a dit, on n'a pas pu aller quelque part parce qu'un volcan a déposé tellement de lave et de boue qu'on a dû prendre une autre route. Il dit, ils ont rencontré 15 églises à Java. Ils sont allés dans une église qui était sur pilotis parce qu'elle était construite au milieu d'une rivière. Une église de 200 personnes. Et qu'est-ce que vous croyez que Pasteur Goody a amené là-bas? Les journaux des États-Unis, les magazines de films d'Hollywood. Si ça vous offense, je suis désolé, mais c'est trop tard. Non, qu'est-ce qu'ils ont amené à ces gens qui étaient là-bas dans cette église sur pilotis? Le livre. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le cœur de ces personnes. Ils ont dit. Donc en Indonésie, c'est une place vraiment extraordinaire. Donc ils amènent le livre. Et quand nous allons travailler, quand nous sommes dans un autre travail, et peut-être que quelqu'un ne veut pas entendre parler de la Bible, mais tu es la Bible devant eux. Je travaillais dans la prison et quelqu'un m'a dit, je ne veux pas entendre une seule parole de la Bible sortant de toi. Il a dit, tu ne peux pas parler de la Bible ici dans ce pénitencier. Donc moi je me suis dit, est-ce que je peux faire pire que ce qui est déjà ici, si je parle de la parole de Dieu? Donc Donc il dit, tu auras juste 30 minutes par semaine. D'accord. Et c'est tout. Donc je me suis dit, bon, d'accord. Mais j'aimerais... Il dit, mais j'aimerais t'informer. Comment tu as eu ton travail ici? Il a dit, c'est ta famille qui m'a placé là. Parce que sa famille était de la mafia, donc quelque part, le gars qui était directeur de l'institution était plus ou moins pistonné par sa famille. Et donc comme il lui a rappelé ça, il a eu pendant 10 ans qu'il a travaillé dans ce pénitencier. Il a eu la liberté de parler de la parole de Dieu. Donc amène le livre lorsqu'on va frapper aux portes. Partout dans nos familles, dans notre travail, on veut amener le livre partout. Amène le livre dans les endroits où nous allons, dans ce magasin, prendre de l'essence. Et on va là-bas et on peut juste dire, Dieu, nous prions, donne-moi une opportunité d'amener ce livre à quelques personnes. Et ça, c'est le type de ministère que nous avons. Et c'est ce que nous faisons un peu partout, Silver Spring, à Philadelphie, à Baltimore, partout. Nous amenons ce livre aux gens. Et c'est le livre de la vie. Donc Moïse a amené le livre. Et Moïse a amené le livre en bas. Josué l'a amené dans le pays promis. Jérémie a amené, Ésaïe a amené le livre. Quand ils étaient entourés par les Assyriens. Donc, le livre a toujours été amené partout. Beaucoup de gens sont impliqués dans les missions. Donc, je ne veux pas sacrifier. On ne veut pas sacrifier ce qui est éternel, ce qui est vivant, pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est faire du bien sans Dieu quelque part. Et je ne veux pas abandonner quelque chose qui est parfait pour quelque chose qui est bon. C'est un des plus grands problèmes qu'on a dans le christianisme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font des choses bonnes, mais pas ce qui est juste, pas ce qui est divin. Mais je ne veux pas échanger ce qui est parfait pour quelque chose qui est peut-être bon, mais qui n'est pas de Dieu. Donc on a entendu pendant des années et des années au sujet du livre, la parole de Dieu. Dr. Stevens nous a enseigné ligne après ligne. Donc on a vu une classe sur Ésaïe 58. Donc j'ai besoin de savoir ce que Dieu pense. Et vous savez ce que c'est la vraie guérison? Je sais que Dieu guérit, parce que moi je ne devrais même pas être là normalement. Je sais que Dieu guérit, qu'il délivre les gens, qu'il y a la guérison. Mais une des plus grandes guérisons que le croyant peut expérimenter, c'est la guérison de son âme. Quand Jésus est venu à Nazareth, il a ouvert le livre et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs brisés, pour prêcher la délivrance aux captifs, pour donner la vue aux aveugles. Et vous savez ce qu'il était en train de dire? Il dit, je suis en train d'amener le livre de la grâce pour ceux qui sont pauvres, le livre de la miséricorde, le livre de la vérité pour ceux qui ont besoin de délivrance, le livre de la foi pour ceux qui sont aveugles, et le livre de l'œuvre accomplie pour ceux qui sont écrasés. J'ai besoin que ma pensée soit transformée. J'ai besoin que mes émotions ne soient pas connectées avec le bon côté de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, mais à l'esprit et à la parole de Dieu. Je pense avec Dieu, mes émotions répondent correctement et je fais des choix, non pas poussé par je ne sais pas trop quoi, ou parce que j'ai été manipulé, mais parce que j'ai une conscience qui est attachée au Saint-Esprit, libérée de toute condamnation, acceptée dans le bien-aimé, et j'ai une image qui vient de l'œuvre accomplie. Ça, c'est une âme qui a été guérie. Ça, c'est la guérison de l'âme. Et ça, ça commence comme ça, par ouvrir le livre. Je pense avec Dieu, mes émotions répondent, je prends des décisions et je suis conscient de Dieu et je sais que je suis en Christ parce que le livre me le dit. Et ça, c'est incroyable. Et nous sommes guéris, nous sommes guéris. Nous sommes rendus libres dans nos vies. Vous savez ce qu'il disait? Et ça, c'est un jour de joie dans Néhémie 8. Et la joie du Seigneur, c'est quoi? Notre force. Ça, c'est une journée où nous avons eu l'unité, où nous avons eu le livre. Et nous sommes encouragés de ce qui se passe dans notre Église. On a des hommes, on a l'unité, on a des fruits de tout ce qui prend place un peu partout. On amène de livres et ils disent, donne-nous le livre, on veut le livre. Quelle église, vous êtes là ce soir. Peut-être vous étiez là ce matin ou ailleurs à Silver Spring. Et vous prenez des classes tout le reste de la semaine. Et c'est le livre. C'est le livre. Et c'est ce ministère. Ça, je suis juste en train d'imaginer dans ma tête. Pourquoi ces gens sont là? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est juste pour que le livre soit ouvert. Je sais que ça, c'est... Je sais que ça, c'est un des versets préférés de Cathy. Je sais que les sacrifices et les offrandes, tu n'en veux pas. Mais je suis venu avec toi, avec le livre. Est-ce que tu aimes? C'est des cœurs brisés. Et il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, qui offrent des holocaustes. On a entendu parler de Saul ce matin. Saul qui a fait des sacrifices alors que ce n'était pas son business. Il a perdu son royaume à cause de ça. Il ne voulait pas écouter Dieu. Dieu lui a dit d'attendre que Samuel vienne. Dans 7 jours, Samuel a dit, je viendrai. Et le matin du 7e jour, Saul n'a pas vu Saül arriver, donc il s'est forcé lui-même pour faire un holocauste. Et voilà que Samuel est venu l'après-midi. Surprise! Et Samuel a dit à Saül, Dieu a élevé un homme selon son cœur. Et il a recommencé encore. Il a épargné les meilleures choses pour Dieu. Regarde au fruit de la terre, dit Caïn. Quand Dieu dit qu'il n'a pas de respect pour l'offrande de Caïn, il est dit que Dieu, en fait, ça veut dire que Dieu s'est retourné et il a montré son dos à Caïn. Parce que Caïn n'a pas bien écouté. Il n'a pas prêté attention au livre. Et je veux être guéri au travers de la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole pour guérir. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole pour guérir. Le centenier a dit, non, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, parle juste une parole et mon serviteur sera guéri. Dieu dit, oh, connais-tu la parole, la puissance de la parole? La parole qui perce, qui transperce, qui peut nous construire, qui peut nous montrer qui nous sommes, qui peut délivrer les gens de l'anxiété, qui peut nous délivrer de la peur, qui peut nous délivrer d'être à droite et à gauche. La Bible peut nous montrer qui nous sommes, nous donner une nouvelle image en Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit « Amen » le livre. Parce que sans doute, nous disons que c'est à cause d'elle que nous savons qui nous sommes. Et sans elle, nous fuirions loin de Dieu. Mais avec elle, j'ai de la paix, la joie, la patience, une bonne image en Christ, dans le corps de Christ, et complètement délivré. Et Dieu a dit, j'ai une autre bénédiction pour toi. Je vais prendre soin de ton corps, âme et esprit. Seigneur, nous te remercions ce soir. Parce que Seigneur, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Et peut-être nous sommes venus ce soir et nous n'avons aucune attente de ce qui peut prendre place. Peut-être ce soir, alors que nous prions et considérons ce que veut dire d'être oint par l'huile. La signification est le Saint-Esprit et le corps de Christ priant, croyant Dieu pour la guérison. La guérison dans les âmes, dans les pensées, dans les émotions, dans la volonté, dans la conscience, dans l'image propre.